Le journal est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Des files d'opposants à Poutine devant les bureaux de vote en Russie, dernier symbole d'une résistance menacée avant le triomphe annoncé. Emmanuel Macron renouvelle son soutien à l'Ukraine. La France doit se préparer à tous les scénarios, mais peine à convaincre ses alliés européens. Nous irons également en Irlande à l'occasion d'une Saint-Patrick perturbée par le conflit à Gaza. Et puis nous reviendrons sur ce rachat du groupe Altice par Rodolphe Saadé. Qui est-il, avec quelles ambitions? Marina Alcaraz, spécialiste des médias, est l'invitée de ce journal. Plus que quelques heures avant la réélection annoncée de Vladimir Poutine. Troisième et dernier jour de vote ce dimanche en Russie. C'est le jour où les opposants de Vladimir Poutine se mobilisent pour cette dernière action de résistance voulue par Alexei Navalny avant sa mort le midi contre Poutine. Sans être absolument massif, des files se sont formées à la mi-journée devant les bureaux de vote de Moscou. Sylvain Tronchet y était.
Ils sont arrivés d'un seul coup devant ce bureau de vote du centre-ville de Moscou. 100 puis 200 personnes en quelques minutes sont venues faire la queue à midi précisément, et parmi eux, Elisabeth.
Nous sommes ici à midi contre vous savez qui, quelqu'un dont nous ne pouvons pas dire le nom. Nous voulons la fin de la répression dans notre pays. Nous voulons que la guerre fratricide prenne fin. Comme on le voit, il y a une file d'attente, donc l'action fonctionne. Et donc dire que tout le monde s'en fiche, que la majorité soutient le pouvoir actuel, ce n'est pas vrai.
Toute la semaine pourtant, les autorités russes avaient tenté de décourager les opposants de participer à cette action, brandissant la menace de poursuites judiciaires. Ce midi, il y avait énormément de policiers postés devant ce bureau de vote, cagoulés parfois, mais cela n'a pas empêché Nikita de venir avec deux amis.
D'une certaine manière, tout le monde est habitué à ce que toute action de ce type soit accompagnée de cars de police. C'est normal, ça fait partie de la vie. Pourquoi ça devrait-il entraver nos actions ?
Malgré la bonne humeur apparente de ces jeunes hommes, l'ambiance n'était pas au rassemblement festif. Tout à l'heure, une jeune fille, les larmes au bord des yeux, me confiait son désarroi en admettant que tout cela ne changerait rien. L'action de ce midi ressemblait à un barreau d'honneur avant le triomphe annoncé ce soir de Vladimir Poutine.
L'élection est de nouveau perturbée par le conflit avec l'Ukraine. Ce matin, une attaque de drone a provoqué un incendie sur une raffinerie du sud du pays et fait un mort. Les autorités russes affirment par ailleurs avoir abattu 35 drones dans la nuit. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a renouvelé une fois de plus son soutien à l'Ukraine. C'était dans Le Parisien ce matin. Le président, qui, toujours via des formules négatives, se refuse à fermer la porte à des opérations sur le terrain. « Je ne le souhaite pas et n'en prendrai pas l'initiative », dit-il, « mais il faut se préparer à tous les scénarios ». Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Mathilde.
Juste avant cet entretien, Emmanuel Macron était à Berlin avec ses homologues allemands et polonais. Aucune décision commune n'a été prise sur le sujet et au contraire, Louise, ce positionnement français cristallise des divergences stratégique entre la France et l'Allemagne.
Alors effectivement, pour Berlin, l'allié américain reste le pivot de la sécurité du continent européen, alors que pour Paris, l'agression russe en Ukraine prouve justement que l'Europe doit savoir se défendre seule. En filigrane, ce qu'est devenu l'enjeu de défense après 45 et après la chute du mur, prudence et non-intervention côté allemand, c'est le poids de l'histoire, là où la France se targue de conserver une vision stratégique. Certes, l'agression russe a déclenché outre-Rhin un changement d'époque et le refinancement massif de la Bundeswehr, 100 milliards d'euros sur la table, mais l'armée allemande va mettre du temps à se reconstruire. Une véritable révolution pour une nation qui pensait ne plus avoir à faire la guerre, là où la France est une puissance dotée de l'arme nucléaire et qui a conservé une armée de métier opérationnelle. Différence stratégique donc, mais pas de divergence, selon Emmanuel Macron, qui, pour convaincre, joue la complémentarité entre une Allemagne qui aurait pour elle l'espace budgétaire et peut dépenser plus, et une France qui peut tenir le seul langage que Vladimir Poutine comprend, celui de la force. Alors on va voir dans les jours qui viennent, et notamment à Bruxelles en fin de semaine, s'il n'y a vraiment pas de fâcherie avec Berlin, comme le dit le président français, sachant que l'alternance de fortes turbulences et de convergence est un classique de la relation entre l'Allemagne et la France, condamnée in fine à s'entendre sous le regard des autres pays européens.
Merci Louise Baudet de la rédaction internationale de Radio France. Dans l'actualité également, cet accord signé ce matin entre l'Union européenne et l'Égypte pour limiter l'arrivée de migrants sur le continent. continent européen. Dans le même esprit que les accords signés avec la Tunisie, il s'agirait pour le Caire d'empêcher leur départ, voire de réintégrer des ressortissants en situation irrégulière. Le tout moyennant dons, aides et investissements européens à hauteur de 7,4 milliards d'euros. Au nom de l'humanité, l'Organisation mondiale de la santé exhorte Israël à renoncer à un assaut sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. Le chef de l'OMS estime que les plus d'un million de civils sur place n'ont aucun endroit où aller et que de nombreuses personnes sont de toute manière trop fragiles pour être de nouveau déplacées. Dans le même temps, le cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahou doit se réunir en fin de journée pour réfléchir à des négociations en vue d'une potentielle trêve. Il s'agit surtout de déterminer le mandat de la délégation qui doit se rendre à Doha pour de nouvelles discussions. Le conflit au Proche-Orient qui s'invite jusque dans les fêtes traditionnelles les plus chrétiennes. Ce dimanche, en Irlande, on célèbre la Saint-Patrick. Partout dans les rues de Dublin, les passants s'affichent en vert, des trèfles sur les joues. Or, la Saint-Patrick, c'est aussi l'occasion pour le gouvernement irlandais de se livrer à un exercice diplomatique avec cette visite annuelle du Premier ministre à Washington. Visite que certains appellent à boycotter en raison du soutien des États-Unis à Israël. Reportage avec Clémence Pénard. The President of the United States,
accompanied by the Taoiseach of Ireland. La coutume date de 1952. À la Saint-Patrick, le Taoiseach, le Premier ministre, offre un bol symbolique de trèfle au président américain. Mais cette année, Paul Murphy, député du parti People Before Profit et d'autres, appelle à boycotter cette rencontre à la Maison-Blanche. D'après Paul, la guerre ne pourrait tout simplement pas se poursuivre sans le soutien financier de Washington. Et cette tradition télévisée à travers les États-Unis pourrait même être utilisée par Joe Biden alors que la présidentielle a lieu en novembre.
C'est un événement politiquement important pour le président américain. Ça lui permet de gagner les voix de la communauté des Américains d'origine irlandaise. Si le gouvernement irlandais refusait de participer à cette coutume, ça créerait une pression sur les États-Unis, tout en envoyant le message que les leaders du monde doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher le génocide qui se déroule sous nos yeux.
L'identification à la cause palestinienne est profonde ici, selon Daniel Gary, professeur d'histoire au Trinity College. Le traumatisme de la colonisation britannique est encore vif en Irlande.
Les Irlandais sont beaucoup plus critiques. Ça s'explique par l'héritage de l'Irlande en tant que colonie. Il y a une compréhension différente ici de celle des États-Unis ou d'autres parties de l'Europe. Mais je crois que les Irlandais éprouvent au fond des sentiments très positifs envers les Américains, en raison des racines très anciennes de l'immigration vers les États-Unis.
La remise annuelle du bol de trèfle donne en tout cas à l'Irlande un accès diplomatique hors norme à la première puissance mondiale, comme l'explique Billy Condon, directeur du Conseil irlando-américain.
Nous sommes probablement le seul pays à rencontrer ainsi chaque année le président des États-Unis. Ça a beaucoup compté pour nous pendant le processus de paix en Irlande du Nord. Nous avons eu la capacité d'exercer une certaine pression sur les États-Unis qui ont pu par la suite exercer cette pression sur le Royaume-Uni pour s'assurer que la paix soit mise en place. Donc je pense que cette relation doit être maintenue coûte que coûte.
L'Irlande espère aujourd'hui jouer de nouveau de ses liens historiques pour plaider en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza.
Reportage à Dublin signé Clémence Pénard. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'écosystème des médias. L'offre de rachat officialisée vendredi du groupe Altice par Rodolphe Saadé. Pour l'heure, Altice Média appartient à Patrick Drahi et comprend les antennes de BFM TV et RMC. Cette future acquisition, puisqu'elle devrait être effective d'ici l'été, c'est avant tout un relais d'influence pour celui qui, bien que spécialiste de la logistique, se positionne depuis quelques années dans le monde de l'information. Analyse ce midi avec la journaliste Marina Alcaraz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des médias. Alors, d'où est-ce qu'il vient, Rodolphe Saadé, et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le boss de Marseille ?
Alors, CMA-CGM, c'est un groupe très, très important à Marseille, dans sa région, hein, avec un ancrage très fort à Marseille. Déjà, c'est un groupe qui se voit. Une immense tour qui domine le port de Marseille et tutoie quasiment la Bonne Mère. C'est aussi le premier employeur privé de Marseille. Il a acquis la Méridionale que tous les Marseillais connaissent bien. Il est sponsor de l'OM que là aussi tous les Marseillais connaissent très bien. C'est un groupe donc très présent et très bien implanté, mais c'est aussi un acteur mondial. Ce n'est pas juste un groupe marseillais ou même un groupe français. C'est un acteur mondial du transport et de la logistique, le numéro 3 mondial en tant qu'armateur. Il a plus de 600 navires, des entrepôts, des ports, etc. C'est un groupe qui a 45 ans, qui a été fondé par Jacques Saadé. Et l'histoire veut qu'il ait commencé avec quelques bateaux de pêche, un entrepreneur chassé de Syrie, puis du Liban car la guerre civile. Et donc, c'est vraiment parti de rien. Jacques Saadé est arrivé à Marseille avec une valise en carton, la légende, et ses enfants dans un petit appartement. Il a ensuite affecté un bateau, puis deux, trois bateaux, etc., entre Marseille et Beyrouth. Et quand il est mort en 2018, c'était 450 navires qui naviguaient sur la Méditerranée. Et donc aujourd'hui, CMA-CGM, c'est vraiment un véritable empire du transport et de la logistique.
Comment est-ce que Rodolphe Saadé, le fils, a transformé le groupe CMA-CGM?
Alors Rodolphe Saadé se voit confier en fait le destin de l'entreprise familiale en 2017, 23 ans après l'avoir rejointe. Et il est arrivé en 1994, après des études à l'Université Concordia de Montréal, une aventure entrepreneuriale dans les fontaines à eau. Il apprend le métier chez CMA-CGM en gravissant peu à peu les échelons, hein, et dans l'ombre d'un père d'une exigence totale, comme le décrit un familier de l'entreprise. Il diversifie peu à peu les activités. Il réussit son pari, hein, alors qu'a priori, ce n'était pas aisé. On parle avec des proches de l'entreprise. En particulier, il diversifie dans la logistique avec les acquisitions, mais des acquisitions importantes, Ceva Logistique, Jeffco, Colis Privé, et plus récemment, Bolloré Logistique est un énorme rachat dans l'histoire de CMA-CGM. Alors CMA-CGM, pour vous donner une idée, c'est un chiffre d'affaires de 47 milliards de dollars, presque 160 000 employés dans le monde et des profits records en 2022, même si ça a beaucoup baissé depuis en 2023.
Son intérêt pour les médias, il est assez récent, mais pourtant, après le rachat de la Provence, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il accède à des titres de presse nationale. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut imaginer de son projet dans le domaine?
Alors, il est arrivé en fait avec la Provence à l'été 2022, à l'issue d'une bataille un peu épique avec Xavier Niel. On se demandait à cette époque ce qu'il venait faire dans les médias. Il dit que ça l'intéressait, justifiait ça par un attachement au titre qu'il lit tous les jours. Et on se posait vraiment la question de qu'est-ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait rester cantonné à un quotidien régional ou faire plus. Très rapidement, on a vu qu'il allait faire plus, puisqu'il s'est porté candidat au rachat de M6 avec d'autres, avec Stéphane Courbis et Marc Ladré de la Charrière. Il a fait une offre de rachat après l'échec de la fusion avec TF1, quand Bertelsmann avait tenté de trouver un repreneur. Et Rodolphe Saadé est resté en contact avec l'état-major de M6 et a racheté du capital sur le marché. Hein. Il a aujourd'hui à peu près 10% de M6. Ensuite, en 2023, c'est La Tribune, également donc gros rachat qui le fait rentrer vraiment un mania des médias, qui décline en édition dominicale en s'imposant face au JDD. Et maintenant, avec BFM TV, il entre vraiment dans la cour des grands. Hein. C'est la première chaîne d'info, c'est aussi RMC, c'est des déclinaisons locales de BFM que tout le monde connaît bien. C'est une grosse acquisition également en termes financiers, 1,55 milliard d'euros. Détenir BFM, c'est à la fois une diversification, mais détenir la première chaîne d'information de France va lui permettre de peser dans le paysage des idées et dans le débat public.
Donc,
clairement, il prend une autre dimension.
En quelques mots, juste, est-ce qu'il a des intentions éditoriales?
A priori, il n'intervient pas. Enfin, moi, les contacts que j'ai avec les gens de la Provence, etc., il n'a pas d'ambition, lui, éditoriale à titre personnel. Mais en tout cas, il veut continuer à se développer dans le secteur des médias. Et d'ailleurs, il le dit dans le communiqué de presse annonçant cette acquisition de BFM, d'Antique Média, pour être précise. Avec ce projet d'acquisition, dit-il, nous avons l'ambition de poursuivre notre développement de long terme dans le secteur des médias. Et de l'avis de nombreux observateurs, il va continuer à investir dans les médias. Hein. Ça y est, l'épicentre des médias, c'est un peu déplacé, en partie du moins à Marseille. Mmh. Et bon, on peut s'attendre à ce que de nombreux dossiers restent sur son bureau, clairement.
Merci.
Alors, il aura déjà de nombreux défis.
Merci beaucoup, Marina Alcaraz, d'avoir été l'invitée de France Culture ce midi. Et je rappelle que vous êtes journaliste aux Échos et docteur en sciences de l'information et de la communication. On termine ce dimanche 17 mars, on parlait de la Saint-Patrick plus tôt, mais en France c'est aussi la journée nationale des aides à domicile, un secteur crucial pour l'accompagnement des seniors et des personnes dépendantes. Les aidants professionnels, ils sont 570 000 en France, répartis dans différents corps de métier, auxiliaires de vie, aides-soignantes et infirmières pour les soins. Mais l'aide à la personne connaît une crise des vocations du fait d'un manque d'attractivité. Explication avec Alexandre Motto.
Un métier très riche, mais des horaires très difficiles, explique Sylvaine, aide à domicile pendant 19 ans.
On cumule souvent tout ce que les gens veulent pas. Du temps partiel, à travailler les week-ends, avec une amplitude horaire grande. Le matin de bonne heure, le soir tard, et des trous au milieu de notre journée.
Un métier avec du sens, bien sûr, et un volume horaire parfois décourageant. Sarah Etiev, directrice de Famille Rurale 36.
Notre difficulté principale aujourd'hui, c'est le recrutement. Les salariés travaillent tous les jours de la semaine, parce que quelqu'un qui a besoin, il ne va pas avoir besoin du lundi au vendredi, il va aussi avoir besoin le samedi et le dimanche.
Des rémunérations modestes, malgré un petit mieux récent, mais pas pour tout le monde.
Pour les personnes qui sont qualifiées aujourd'hui, les salaires ont quand même été revus à la hausse. Néanmoins, les salaires restent peu attractifs. Si on augmente les salaires, on augmente le reste à charge et on a des personnes qui parfois ont des toutes petites retraites qui ne sont plus en capacité de financer le reste à charge.
Il y a donc peu de candidats, même si cette vocation, Sylvaine l'a toujours dans son cœur.
J'ai donné aux gens, mais ils m'ont donné énormément. Une expérience que je revivrai jamais ailleurs.
Un argument humain décisif pour pérenniser la vocation et cette passion pour les autres.
Reportage Alexandre Moto de France Bleu Berry. Le temps cet après-midi va rester couvert sur la majorité du territoire. Quelques rayons de soleil tout au sud. Les températures sont comprises entre 13 et 23 degrés.